la dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Et votre invitée, Nicole Bric, disait à l'instant qu'il fallait un changement de paradigme dans les habitudes. C'est précisément ce que proposent deux films sur lesquels nous revenons aujourd'hui. Deux films documentaires qui ont chacun remporté un succès considérable. L'un s'appelle Demain. C'est un manifeste pour une autre vie et un autre monde qui sort aujourd'hui en DVD. L'occasion donc de parler de ce film-là et l'occasion pour Cyril Dion, qui est le réalisateur avec Mélanie Laurent, d'être notre invité et de rencontrer François Ruffin, qui est le réalisateur de Merci Patron, comédie arnaque en version lutte des classes. C'est justement sur la dimension politique que j'aimerais que nous nous arrêtions dans cette dernière partie. Autour de la table, Antoine Mercier et Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques, nous a rejoint. Bonjour à vous Loïc.
Bonjour.
Parce que j'aimerais que nous partions de cette idée que vos films sont des films de cinéma avec une ambition politique, l'un comme l'autre, d'abord parce que vous êtes l'un comme l'autre des militants. Cyril Dion, vous avez cofondé le mouvement Colibris avec Pierre Rabhi, le père de La Sobriété Heureuse. François Ruffin, vous êtes journaliste, par ailleurs le fondateur de Fakir, qui revendique à la fin de Merci Patron 6437 abonnés. Peut-être il y en a beaucoup plus depuis que le film a rencontré ce succès. Vous êtes très engagé contre la loi travail, on l'a entendu dans le journal. Est-ce que vous diriez que ces films sont des films de combat, que ces films même ont été faits pour servir un propos politique, ou bien c'est le succès populaire qui leur ont donné une portée politique? Cyril Dion.
Pour ce qui est de Demain, oui, c'est un film politique, très clairement, qui propose une autre vision de la société, qui part du principe que la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est malheureusement en train de nous entraîner vers l'abîme. Et ça, c'est ce que nous disent les scientifiques. Et si on voulait résumer, en gros, il y a une étude américaine il y a quelques années qui nous expliquait que les civilisations s'effondrent quand il y a deux facteurs essentiels qui sont réunis. Un, qu'on épuise les ressources naturelles plus vite qu'elles peuvent se renouveler. Et deux, que les inégalités deviennent intenables dans la société. Et on en est là. Ces deux grands facteurs sont réunis. Et ce qu'on a voulu faire avec Demain, c'est proposer clairement une alternative. En disant, il s'agit pas de se résigner. Mais il s'agit pas non plus de continuer à vouloir bricoler le modèle dans un coin pour essayer de le faire tenir debout. Il s'agit de le réinventer. Et non seulement c'est nécessaire, mais c'est ça qui est enthousiasmant aussi. C'est ça qui est excitant.
Et donc faire un film participe d'un projet politique, pour vous?
Oui, d'un projet politique au sens large. Pas d'une carrière politique, mais d'un projet, d'une vision politique de la société.
Ça, c'est dans un deuxième temps. Ce sera peut-être une deuxième question, mais ce sera pour plus tard. François Ruffin.
En tout cas, que Merci Patron soit un film de combat, c'est déjà un combat à l'intérieur du film lui-même. Par ailleurs, faire ce type de film, c'est un combat aussi.
Les conditions de production, de financement,
exactement.
Etc.
Et ce combat à l'intérieur du film, c'est pour ça que ça marche. C'est qu'on montre qu'on peut les gagner. On gagne. L'une des morales, il n'y a pas de morale explicite, mais l'une des morales tacites du film, c'est on est parfois plus fort qu'on ne le pense, et en face, ils sont parfois plus fragiles qu'on ne le croit. Donc on peut y aller, et c'est ce que ressentent, sans qu'il y ait besoin qu'on le dise aux gens comme ça, mais dans la joie, c'est ce que ressentent les gens quand ils sortent du film. Donc après, faire le pari que ça va déboucher, que ça remette du baume au cœur aux gens, individuellement ou à des structures localement, parce qu'ils vont les voir ensemble, des syndicats, des associations et tout ça, je le pensais, qu'ensuite ça débouche potentiellement sur un mouvement, c'était quand même plus incertain. Quoi.
On vous dit, François Ruffin, à l'origine, l'un des initiateurs de Nuit Debout, sur la place de la République à Paris d'abord, et puis qui a essaimé dans différents endroits de la France, du territoire national. Les deux films ont été projetés sur la place de la République, pas au même moment. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, que vous vous rencontrez aujourd'hui, l'un et l'autre. D'ailleurs, merci d'avoir accepté au passage cette invitation et de rester dans les deux parties de l'émission. Est-ce que, sur la place de la République, en particulier à Paris, mais aussi dans les mouvements qui ont essaimé donc en France, on a dit qu'il y avait deux types, je laisserai Loïc Blondiot parler, mais deux types de représentations. Est-ce que vous diriez que vos deux films incarnent ces deux parties, disons, de la gauche, un volet écologique et un volet plus gauche de la gauche, disons, aujourd'hui, extrême gauche? Et est-ce que ces combats que vous défendez l'un et l'autre sont des combats que vous jugez complémentaires, antinomiques? Comment vous retrouvez? Je rejoins un peu ce que vous disiez en première partie, François Ruffin. Cyril Dion.
Je ne sais pas si ça représente que... Enfin, s'il n'y a que deux tendances qui sont représentées à Nuit Debout ou Place
de
la
République. Non, il n'y en a pas que deux. Mais il y en a deux,
oui, oui.
Au moins.
Et moi, je pense que oui, ce qu'on fait est relativement complémentaire. Et que il n'y a pas qu'une seule façon d'essayer de changer la société. Il y en a plein, heureusement. Et que c'est certainement en les faisant dialoguer et certainement en aidant à un dialogue et à une coopération que ça peut marcher. Moi, j'étais très, très frappé. Là, je fais une toute petite parenthèse par ce qu'on entendait pendant le journal. On est quand même un pays où c'est absolument impossible de travailler ensemble. C'est fou. Enfin, je veux dire, c'est fou allié. On a un exemple qu'on a filmé, mais qu'on n'a pas monté dans le film, où on racontait comment s'était passé le dialogue pour le mariage pour tous en Irlande catholique, où il y a eu un parlement de circonstance qui a été constitué avec 66 citoyens tirés au sort, 33 parlementaires et un président de session, qui ont travaillé pendant un an, qui étaient filmés sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Les gens pouvaient apporter des contributions, à la fois qu'ils soient des associations, des organisations politiques ou des simples citoyens, pour qu'il y ait un vrai débat public, qu'on se parle, qu'on échange nos points de vue. Ce travail pendant un an a débouché sur une recommandation de ce parlement de circonstances qui était d'autoriser le mariage pour tous, ce qui a donné lieu à un référendum. Le gouvernement a joué le jeu en disant « bah ok, le parlement de circonstances qu'on a créé a proposé ça, on le fait ». Ce référendum a rencontré une opposition farouche de l'Église catholique, évidemment, qui s'est prononcée contre le référendum, contre le mariage pour tous, et il a été adopté à plus de 60%. À côté de ça, nous, en France, on a eu une année d'instabilité politique avec 1 million de personnes dans la rue, des gens qui se crêpaient le chignon devant les écoles. Moi, je voyais ça devant les écoles de mes enfants. C'est assez dingue, hein, quand même. J'ai eu la même conversation avec les Suédois qui nous disaient « Mais c'est quoi votre histoire avec les syndicats en France ? Nous, on a 2 énormes syndicats, la moitié de la population est syndiquée. Quand le gouvernement veut passer une mesure, il va d'abord voir les syndicats en secret. Il dialogue, il trouve un accord et ensuite il rend cet accord public en disant « On a déjà essayé de trouver la meilleure solution à la fois pour les salariés et à la fois pour le gouvernement. » Vous, on dirait que les syndicats, enfin que le gouvernement en gros parle à personne avant, lance une mesure, c'est ce que disait Nicole Bric, on va faire la pédagogie 6 mois plus tard, les syndicats sont vent debout, tout le monde est dans la rue, ça crée de la violence partout. Je veux dire, il y a un moment, peut-être qu'il faudrait apprendre aux gens à dialoguer, à avoir des points de vue contradictoires qui peuvent s'enrichir, et à trouver une forme de consensus, et à travailler ensemble, à coopérer.
Complémentarité, François Ruffin, sur la base de l'idée que vos deux films, en tous les cas, sont d'accord pour dire que chacun d'entre nous, citoyens, peut agir et reprendre son destin en main. Mais après, de façon différente, est-ce que vous pouvez réunir l'écologie, les Verts, disons, et le Front de Gauche ?
Moi, je prétends être à la fois rouge et vert, même si mon film est nettement plus rouge que vert. Mais de toute façon, il faut trouver le chemin qui dépasse les contradictions, en l'occurrence. J'ai une remarque sur quand vous dites que je suis à l'extrême gauche ou à la gauche de la gauche. Moi, je me reconnais pas du tout. Moi, je pense que je suis de gauche. Juste quand vous avez tout le champ politique qui dérive sur la droite, le fait que vous soyez un point fixe, moi je considère que je suis un bon social-démocrate à l'ancienne, matinée d'écologie, quoi. Le fait que vous soyez un point fixe, ça vous amène à vous retrouver à l'extrême gauche. Donc voilà.
Contact.
Voilà. Mais je pense que il y a une dimension écologique qui a trouvé. Après moi, dans l'histoire du dialogue, je veux dire la différence de la Suède, elle a gardé un roi. Une reine, nous on est passé à la République. Et aussi parce qu'il y a eu de la conflictualité et qu'il y a eu de la conflictualité qui s'est passée dans la rue. Donc je crois que ça potentiellement ça appartient aussi à notre histoire. Tout se passe pas seulement par. Je suis que pour qu'il y ait davantage de dialogue. Maintenant, il y a parfois aussi des intérêts contradictoires et que le dialogue suffira pas à dépasser des intérêts contradictoires. Quoi.
Thierry Dion ?
Non, mais qu'il faille du rapport de force à un moment, évidemment. Et encore une fois, on le montre dans le film. C'est pour ça qu'on a choisi l'exemple de l'Islande où, au moment de la crise de 2009, les gens sont descendus dans la rue jusqu'à ce que le gouvernement démissionne, jusqu'à ce que le président de la Banque Centrale démissionne, qu'il y ait à nouveau des élections et qu'il y ait un nouveau parlement qui soit élu. Parce que, effectivement, il y a des choses qui sont, qui doivent passer par une forme de rapport de force, mais plus ce rapport de force peut être, fructueux et non violent. L'intérêt de l'exemple islandais, c'est par exemple qu'à un moment, quand il y a eu ces fameux casseurs qui ont commencé à vouloir faire dériver la manifestation, les citoyens, c'est-à-dire les gens de la manifestation, ont organisé un cordon orange pour protéger les policiers. Et à partir du moment où les gens ont vu à la télévision que c'était les manifestants qui protégeaient les policiers, ils se sont dit « Ah oui, mais c'est pas des fous qui sont devant le Parlement tous les jours. C'est pas des gens qui veulent tout casser. C'est des gens qui veulent constructivement faire avancer la société, et ça a amené encore plus de gens devant le Parlement. Donc là, moi, je trouve qu'il y a des leçons à retirer de tout ça.
Loïc Blondiot.
Oui, on retrouve dans cet échange finalement la tension qui était présente quand même au sein du mouvement Nuit Debout. Hein. Je suis assez d'accord avec Caroline pour dire que vous représentez finalement des sensibilités qui sont proches. L'une qui insiste sur l'impératif du débat, du dialogue, de l'expression, et l'autre qui assume beaucoup plus clairement le conflit et qui serait plutôt ici représentée par François Ruffin. Ma question, c'est par rapport à l'évolution de Nuit Debout. On voit qu'aujourd'hui, il me semble que la tendance qui vise d'un certain point de vue à désigner clairement un adversaire, à s'y opposer véritablement, à recourir à un répertoire finalement d'actions collectives beaucoup plus traditionnelles comme la grève, l'activité violente, semble avoir emporté à Nuit Debout. Est-ce que vous seriez d'accord avec quand on voit l'évolution récente, hein, finalement, c'est plutôt les modes d'action portés par la CGT qui ont finalement emporté le mouvement, et la tendance au dialogue me semble aujourd'hui beaucoup plus faible, beaucoup plus fragile, et on voit bien que Nuit Debout s'étiole quelque part quand on y va régulièrement sur la place de la République.
François Ruffin.
Moi, de toute façon, je suis favorable au dialogue. Il faut du rapport de force. C'est le rapport de la lutte. Elle s'inscrit quand même toujours dans la construction d'un rapport de force. Donc, il faut d'abord antérieurement construire un rapport de force. Mais pour ce qui est de Nuit Debout, je ne sais pas si l'étiolement. Vous analysez l'étiolement de Nuit Debout comme le fait que ça se met à lutter davantage. Est-ce que l'étiolement de Nuit Debout est pas lié au fait aussi que quand on parle. À un moment, il faut faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut arriver à des processus de prise de décision et ainsi de suite. Bon, moi, par ailleurs, j'étais pour le dialogue entre Nuit Debout et la CGT, ou entre Nuit Debout et les syndicats. Donc, c'est pas comme si il y avait voilà, ce dialogue-là, il est à trouver aussi pour que le mouvement, il se parle pas qu'à lui-même. Et donc, ça a été à un moment partiellement mais réussi, quoi.
Après, ce que je trouve intéressant, c'est que cette histoire du rapport de force, elle peut être vue de plein de façons différentes. C'est-à-dire que moi, effectivement, je suis moins partisan de dire il y a un ennemi, d'une logique un peu manichéenne où on dirait il y a un ennemi et il y a les gentils et les méchants.
Bernard Arnault, c'est pas un méchant.
Non, mais c'est pas que c'est pas un méchant, mais c'est que les gens qui vont acheter ces produits tous les jours participent à faire en sorte que son entreprise soit extrêmement riche et qu'elle ait un pouvoir démesuré. Donc si à un moment on n'est pas capable, nous, de prendre une forme de responsabilité là-dedans, on peut se plaindre toute la journée qu'il y a la grande distribution et que la grande distribution tue les petits paysans, standardise la nourriture, favorise une agriculture qui envoie des pesticides partout, et en même temps aller au supermarché tous les jours. Donc il y a quelque chose qui est plus complexe que ça. Il y a quelque chose qui vient chercher notre vision du monde et la façon dont on s'inscrit dans le monde et qui peut pas se contenter de dire « bon là il y a les grands méchants », même si effectivement il y a des grandes entreprises qui aujourd'hui ne devraient pas avoir autant de pouvoir.
François Ruffin.
Non, alors, moi, j'ai lu là, le bouquin de Chantal Mouffe.
Elle est venue à la grande table.
Et qui fait bien le distinguo entre ennemi et adversaire. Et qui dit que l'ennemi, c'est quelqu'un qu'on va abattre et dont on va se débarrasser. Et l'adversaire, en démocratie, c'est quelqu'un contre qui on va lutter, mais sans forcément aller jusqu'à son élimination, y compris son élimination physique. Donc moi, j'ai des adversaires et on a un certain nombre d'adversaires. J'étais pour, en effet, que la place de la République n'oublie pas qu'il y avait un adversaire, à savoir le gouvernement, une oligarchie, le MEDEF, un certain nombre de choses comme ça, et que cet adversaire soit pointé. Donc voilà. Maintenant, je fais un distinguo avec ennemi. Moi, je vois quelque chose dans le mode de raisonnement là. Et je voudrais pas être celui qui est pour l'un ou pour l'autre. Je pense qu'il faut trouver les chemins qui permettent de dépasser les contradictions. Mais Cyril pose le cas de la responsabilité individuelle en disant, grosso modo, la transformation, elle peut aussi se faire avec le caddie dans le supermarché. Et c'est sûr que moi, contre ça, donc c'est ce que je posais en première partie, même si... C'est-à-dire, c'est par le bas qu'on y arrive, quoi, en gros.
C'est par les deux.
Ouais, mais moi, c'est sûr que je suis quelqu'un qui pense par la loi. Qui pense que si on veut changer l'agriculture, il faut qu'il y ait un certain nombre de lois qui soient prises, il faut qu'il y ait des décisions macroéconomiques qui permettent...
Ça, c'est pas le bas, c'est le haut.
Oui, je suis par le haut.
Ah pardon, j'ai compris, je suis par le bas.
J'ai dit par le haut, non?
Non, la loi.
Ouais, je suis par la loi. Oui, je suis par la loi. Le haut, je suis aussi pour qu'il y ait de la loi qui dise voilà, il y a un certain nombre de garanties sur le terrain macroéconomique. Si on interdit des pesticides en France, il faut qu'il y ait l'interdiction d'importation de produits. Enfin voilà. Donc je pense que, et alors il ne s'agit pas d'opposer l'un et l'autre, mais de se dire que, alors il y a un exemple que j'adore moi, c'est l'exemple de la création de la sécurité sociale. C'est-à-dire la sécurité sociale, d'abord, ce sont des entreprises, enfin des travailleurs qui mettent en place des collègues, des mutuelles, d'abord dans une entreprise, puis dans une branche, et ainsi de suite. Mais si on n'en reste qu'à ce mouvement par le bas, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a qu'un tiers des salariés, grosso modo, qui sont couverts par la sécurité sociale. Et ça va être complété donc par un mouvement par le haut, savoir le programme du National de la Résistance qui est mis en œuvre et qui là va développer ça pour quasiment l'ensemble du monde salarié. Mais ce travail-là est fait par Ambroise Croizat à la Libération, mais en continuant à s'appuyer par le bas, en s'appuyant par le bas sur le terrain négatif, on va dire, c'est-à-dire sur le terrain de la construction d'un rapport de force, puisqu'il y a des adversaires à la sécurité sociale, à la fois dans le pays et dans le gouvernement, en disant attention, si vous voulez pas qu'on mette en œuvre la sécurité sociale en 6 mois, nous on tire sur la grève générale et on connaît la force de la CGT, du Parti communiste à l'époque, donc on s'appuie sur le bas pour faire ça, et on s'appuie sur le bas aussi pour construire les premières caisses d'assurance maladie, concrètement ce sont des militants qui la construisent, et puis pour aller collecter les feuilles, puisque les gens n'avaient pas l'habitude d'aller collecter les feuilles maladie. Et donc là, je pense que c'est un exemple qui montre bien qu'il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas un rôle du bas, mais qu'il faut aussi, en même temps qu'on agit en bas, penser à comment on construit en haut.
Alors ça, c'est vraiment votre combat et votre conception de la politique, François Ruffin, qu'on voit vraiment dans le film. Et vous le dites dès le départ, ma mission, ce que je me suis donné, c'est de réconcilier la France d'en bas et la France d'en haut via Bernard Arnault. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu... Mais si, parce que ce que vous voulez faire, c'est justement... Enfin, c'est ce que j'ai lu un peu partout, mais c'est très bien, vous êtes en face de moi. c'est justement de casser cette séparation entre deux mondes aujourd'hui. Est-ce que c'est bien comme ça que je vous ai lu aussi et ce que je vous ai vu?
Je pense que c'est deux choses différentes quand même. Mais là, dans mon ironie de dire je vais réconcilier la France d'en bas et la France d'en haut, c'est de dire que ce sont eux qui en appellent en permanence au dialogue social. En disant voilà, il faut dialoguer et tout ça. Mais venez dialoguer. Bernard Arnault a supprimé des dizaines de milliers d'emplois dans ma région, mais qui viennent, qui retournent sur le terrain et qu'il aille voir les gens et qu'il aille dialoguer avec eux. Et c'est inverser la logique du dialogue en disant finalement, qui ne veut pas dialoguer?
Vous dites très très clairement, François Ruffin, que en fait le changement politique passera par une nouvelle alliance entre les catégories intermédiaires, ceux que dont vous réclamez, que la petite bourgeoisie intellectuelle, plus ou moins précaire, vous dites, hein, et les classes populaires.
Bon, c'est ça.
Est-ce que par-delà la,
beaucoup mieux dit.
Par-delà la différence entre vos deux projets, qui sont effectivement complémentaires, est-ce qu'il n'y a pas la même difficulté, à la fois pour les expériences telles qu'elles sont décrites par Cyril Dion dans Demain, et dans la mobilisation des classes populaires, la difficulté, est-ce qu'elle n'est pas sociologique? Est-ce qu'elle n'est pas dans la difficulté à mobiliser ces catégories populaires? Et comment, aujourd'hui, peut-on les mobiliser? Parce que ceux qui participent à ces expériences nouvelles, démocratiques, écologiques, ne font pas, pour la plupart, partie des catégories populaires, que ce soit en milieu rural ou que ce soit en milieu... Est-ce que vous acceptez ce constat? Ce sont plutôt des catégories intermédiaires, éduquées, plus ou moins précarisées.
Je pense que c'est une vision assez urbaine. Parce que moi, je connais énormément de gens qui sont dans des classes assez populaires, et même des gens qui vivent avec presque rien, qui sont dans une démarche écologique profonde. Et qui, justement, vont souvent dans une... vous parliez de sobriété heureuse, qui vont dans un chemin d'essayer de se décrocher du matérialisme. Et alors, peut-être que c'est des gens qui sont plus éduqués, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire, mais ce n'est pas forcément des gens qui sont dans une catégorie socio-professionnelle assez aisée. Et par ailleurs, moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, le fait de casser justement ces espèces de barrières qu'il y a entre les gens montre que là, on a plus d'un million de spectateurs qui a été voir Demain, qu'il y a des gens qui viennent de toute catégorie de la société. Et moi, je suis très étonné de voir qu'il y a à la fois des gens qui viennent de multinationales, alors que le message est plutôt à l'inverse dans le film, qui viennent organiser des débats et qui font des choses, qu'il y a des gens, au contraire, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, plutôt dans un milieu où ils n'ont pas d'argent, où c'est la débrouille, et des gens, effectivement, qui sont plutôt intermédiaires. Et c'est ça qui est chouette, c'est de voir que ça concerne largement les gens.
François Ruffin.
Ouais, moi, c'est la question que vous posez est vraiment une question très très importante pour moi, à savoir comment on parvient à aller retrouver le chemin des classes populaires, et à leur redonner de l'espoir, parce que c'est l'espoir qui mobilise. Enfin, c'est l'un des chemins pour mobiliser. Alors, en même temps, moi, ce que je pense, c'est que les classes populaires, elles ont déjà basculé sur le terrain économique et social vers autre chose. Je veux dire, le vote de 2005 sur le traité constitutionnel européen, où on a 80% des ouvriers qui votent pour le non et 71% des employés, des chômeurs, 67% des employés, c'est un vote de classe qui est hyper important. Maintenant, la difficulté, c'est quelle représentation politique on offre à ce chemin qui est déjà choisi dans les têtes, quoi. Et effectivement, le chemin le plus visible qui est proposé aujourd'hui, et c'est extrêmement préoccupant, et en particulier dans ma région, c'est l'extrême droite. Et quand on voit qu'aux dernières élections régionales, 51% des ouvriers qui sont allés voter pour le Front National, on a là une bataille à mener qui est une bataille d'importance et qui, moi, oui. Maintenant, je pense qu'il y a aussi, sur ces questions-là, il y a un travail aussi auprès de la classe intermédiaire pour se demander en quoi son discours ne colle pas avec les classes populaires, quoi.
France Culture, la grande table. Caroline Brouet.
Avec nos deux invités aujourd'hui, Cyril Dion, co-réalisateur du film Demain, qui sort aujourd'hui en DVD, et François Ruffin, le réalisateur de Merci Patron, tous deux étant par ailleurs des militants. Autour de la table, avec nous, Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques, et Antoine Mercier, qui attend son tour depuis tout à l'heure.
Voilà, oui, vous êtes tous les deux des militants, certes, mais vraiment, en vous entendant et en entendant ce débat jusqu'à maintenant, on voit bien qu'il y a une opposition, j'allais dire radical, entre vous, dans vos deux manières de vouloir subvertir ou changer les choses, améliorer la situation ou changer le système. Cyril Dion, on voit bien que vous suggérez, ça se voit tout au long de votre film, ces initiatives individuelles qui, par elles-mêmes, transforment les situations. C'est-à-dire qu'on ajoute des initiatives aux initiatives, par le bas, de façon presque immanente, et petit à petit, tout se transforme, un peu, j'allais dire, comme par miracle, et les choses deviennent bien meilleures. Alors que, François Ruffin, vous nous dites, non, il faut qu'il y ait la loi, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit politique, il faut quelque chose qui soit décidé par quelque chose qui serait collectif et non plus uniquement par ce besoin individuel. Donc, j'avais envie de demander à chacun la question, pourquoi vous, Cyril Dion, vous pensez qu'il n'y a pas besoin de loi, et pourquoi, François Ruffin, vous estimez que ça ne suffit pas d'avoir ce mouvement de la société elle-même et des individus?
Cyril Dion.
Je vais être un tout petit peu désagréable, mais ça peut être une petite tendance de mettre les gens dans des catégories et de vouloir les opposer. En plus, moi, je me sens pas du tout en opposition radicale. Et le film ne dit pas ça, ne dit jamais qu'on n'a pas besoin d'initiatives collectives. Toutes les initiatives de ce film sont collectives et ne dit pas qu'il n'y a pas besoin de loi. Si je vous donne un seul exemple, je pourrais en donner plein, mais ça serait trop long. L'exemple qu'on monte à San Francisco, c'est la loi de recycler. Et c'est pour ça que ça marche. C'est parce que la municipalité a décidé que si on ne recyclait pas, on serait pénalisé, que si on recyclait, ça coûterait moins cher que si on recyclait pas, et parce que la municipalité a mis en place la facilité
municipal.
Pour recycler.
Bon, voilà.
Je vais vous prendre l'exemple de l'Islande,
L'Islande, c'est vrai.
Voilà, les gens se sont mis ensemble pour refaire la constitution du pays. Il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la théorie du U, qui est exactement ce que François a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ça commence par des initiatives individuelles. Ça, c'est une branche du U. Et à l'autre bout du U, ça s'institutionnalise. Moi, je pense qu'on doit arriver à ça. Moi, la différence éventuellement que je pourrais avoir, c'est que je pense qu'il faut pas mettre trop d'énergie à essayer de faire en sorte que le gouvernement actuel, enfin, que le PS, que les Républicains fassent des changements, parce que pour moi, ils ne les feront pas. Je pense qu'il faut mettre beaucoup d'énergie à réinventer l'espace politique, à faire émerger des nouvelles forces politiques et des gens qui seront capables de penser avec un autre logiciel. Parce que moi, j'ai vécu le Grenelle de l'environnement, j'ai vécu plein d'événements où on a essayé de tendre le bras aux politiques et ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais.
François Ruffin.
Pourquoi la loi? Je vais prendre un exemple tout bête qui est le travail du dimanche. Si jamais on attend que les consommateurs un par un n'aillent pas Moi, comme consommateur, je vais avoir besoin d'aller acheter un truc, je vais y aller le dimanche. Maintenant, s'il n'y a pas la loi qui régule ça et qui permet aux caissières de ne pas avoir à travailler le dimanche, voilà. Et je pense qu'un tout peu tout fonctionne comme ça. Alors, je pense que dans le film Demain, il signale le cas de l'Islande, un certain nombre de cas, mais c'est vrai que c'est pas ce qui apparaît de la manière la plus flagrante. Donc voilà. Mais alors, je sais pas que tu dis, il faut pas laisser le changement. Enfin, il faut, on peut pas faire confiance au Parti Socialiste pour faire des changements, mais ils en font. Aujourd'hui, ils en font. Ils en font. Je veux dire, on a affaire là, pour moi, le logiciel qui est en marche depuis 1983. Il est le même. C'est Mitterrand qui dit, voilà, il n'y a pas d'alternative de Margaret Thatcher, et Mitterrand le reprend à partir de 1983. La question, c'est en effet, comment on sort de ça, et comment on trouve des gens pour l'incarner, des forces sociales qui le portent, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un autre truc, que dans notre rapport à nous deux, il y a une question de haut et de bas, même s'il y a les deux, en effet, dans Demain, mais il y a peut-être un degré de davantage de confiance dans l'individu et tout ça. Bon. Et l'autre truc, c'est le rapport entre, moi je dis, je suis pour les urnes et la rue. Donc voilà. Et en effet, moi j'ai comme souvenir, le Front Populaire, voilà, il y a les urnes, il y a une victoire d'un gouvernement de gauche, mais derrière, il faut lui mettre la pression dans la rue, et c'est comme ça qu'on obtient un certain nombre de conquêtes sociales, et ainsi de suite. Donc, il y a le rapport, en effet, aux urnes. Alors aujourd'hui, je vais pas vous dire qu'il y a une force qui incarne, c'est tout le problème, parce que les gens, ils se définissent quand même politiquement aussi comme ça. Ils vont se définir aussi par rapport à l'élection de 2017, et les classes populaires, elles vont voir quel est le choix qui leur est laissé. Quoi.
Vous avez un boulevard, François Ruffin, c'est Emmanuel Todt qui vous voit comme l'homme qui peut réconcilier aujourd'hui la gauche avec les classes populaires et comme la vraie alternative à Marine Le Pen.
Oui, bon, bah écoute, ça ne sera pas pour tout de suite, je suis un peu fatigué.
Loïc Bondiaux.
Oui, la vraie question, elle a été posée il y a déjà pas mal de temps par un théoricien qui est beaucoup lu à Nuit Debout. Apparemment, son livre est un de ceux qui s'est le plus vendu sur le stand Libertaria, Place de la République, qui est John Holloway, qui dit changer le monde sans prendre le pouvoir. La question, c'est est-ce qu'on peut changer le monde sans prendre le pouvoir, hein. C'est une question qui s'adresse à tous les deux, mais en particulier à
Cyril Dion. C'était la grande question de l'altermondialisme au début des années 2000.
Voilà, c'est une question qui effectivement est pendant toujours. Et la question aujourd'hui, dans la perspective de 2017, c'est est-ce que finalement on a le temps d'attendre que les mouvements, les expériences se cristallisent sans en passer par la case d'un parti politique ou d'une candidature à l'élection ? Est-ce que l'on a, au regard de ce qui s'annonce comme alternance politique possible, au regard de l'urgence climatique, est-ce que finalement, la moins mauvaise solution n'est pas la constitution d'un parti à la manière dont en Espagne, Podemos, finalement, qui reprend en tout ou partie des éléments de la politique que vous préconisez l'un et l'autre, a accepté de jouer le jeu institutionnel.
Cyril Dion.
Mais oui, évidemment, on a très peu de temps et évidemment, on a besoin d'avoir des forces politiques qui, dès aujourd'hui, seraient capables de mettre en œuvre un certain nombre de mesures, seraient capables de, comme je disais tout à l'heure, changer le mécanisme de création monétaire, de taxer le carbone, de réorienter les subventions agricoles. Et en même temps, on a besoin que les gens participent. Ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que pour qu'une démocratie fonctionne ou pour qu'un système fonctionne, il faut que chaque partie de ce système se sente impliquée et responsable. Là, un des grands problèmes de notre démocratie, pour moi, c'est d'une part qu'il y a une surdélégation du pouvoir, c'est-à-dire qu'on a un peu cantonné la démocratie à aller voter tous les 5 ans ou tous les 6 ans, et ça, on voit bien que ça marche pas. Et d'autre part, qu'il n'y a pas de mobilisation, et là, je te rejoins complètement dans les rues sur un certain nombre de sujets. Si aujourd'hui, les responsables politiques ne bougent pas, notamment sur le changement climatique, c'est parce qu'il n'y a personne dans les rues pour le changement climatique, que c'est pas un enjeu électoral. Si aujourd'hui, les multinationales ont autant de pouvoir, c'est à la fois parce qu'il y a un certain nombre de choses dans les lois qui n'encadrent pas ces pouvoirs, et parce que chacun d'entre nous participe à leur donner du pouvoir en allant faire ses courses tous les jours et en les rendant toujours plus riches et toujours plus puissants. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Une société, c'est quelque chose de vivant, justement, où tout est lié, où tout est interdépendant. Donc, il faut, pour moi, reprendre le pouvoir sur nos vies, c'est-à-dire reprendre une forme de pouvoir individuel dans chaque champ de notre vie, quand on fait nos courses, quand on vote, quand on élève nos enfants, quand...
Et là, c'est au-delà du clivage gauche-droite.
Exactement. Et ça, ça a besoin, évidemment, après, de se traduire dans l'organisation de la société et les lois qui encadrent toutes ces choses. Mais si ça vient pas des gens, à mon avis, ça reste quelque chose qui est très déraciné et qui ne fonctionnera pas.
Ouais. Sauf que ça veut dire que vous ne pensez pas qu'il y a un système qui a une puissance et qui se défend précisément de toutes ces attaques et qui a une force intrinsèque vis-à-vis de laquelle il faut peut-être aussi trouver un moyen de combat à son niveau.
Mais c'est si, bien sûr. Mais évidemment, je pense qu'il faut transformer ce système et que ça passe à des moments par des rapports de force qui sont, encore une fois, dans tout ce champ que je viens de décrire. C'est Coluche qui disait quand on pense qu'il suffirait que vous arrêtiez de les acheter pour que ça se vende pas, pour moi c'est déjà un rapport de force, c'est le boycott d'une certaine façon. Et c'est ça qui peut faire transformer le système à la fois de l'intérieur comme ça, et ensuite en transformant un certain nombre de lois.
Alors, j'ai plusieurs trucs. Changeant le monde sans prendre le pouvoir, il est clair que moi, je suis pour la prise du pouvoir. Ça ne veut pas dire que ça marche. Ce qu'on fait maintenant, il ne faudrait pas croire que parce qu'on prend l'Élysée, si jamais il y a la société, elle n'est pas prête, elle n'a pas suivi derrière. Je vais prendre un exemple qui va là nous rassembler. Moi, je suis hostile au dogme de la croissance. Qu'on nous dise que pour lutter contre le chômage, il faut créer des emplois, que pour créer des emplois, il faut de la croissance, et qu'en plus, pour créer de la croissance, il faut donner de l'argent aux entreprises. En gros, c'est l'équation qui met tout le monde d'accord en ce moment, ou instaurer davantage de flexibilité. Moi, je suis hostile à la croissance. Mais il est impossible que, quand bien même il y aurait un dirigeant politique qui, aujourd'hui, arriverait à l'Élysée et aurait ça comme idée, que ça puisse être mis en œuvre dans des mesures concrètes, qu'il y ait un changement de paradigme, puisque Nicole Bricq parlait de changement de paradigme sur ce terrain-là, si derrière, la bataille idéologique n'a pas été menée, qu'il n'y a pas un certain nombre de personnalités, de structures qui ont évolué dans cette direction. Mmh. Donc la prise de pouvoir, elle, ça compte, mais si la société y est prête. Et par ailleurs, là, tu vois, on revient sur l'histoire de... ça commence par aller, est-ce qu'on va acheter...
Bon, moi, ça commence pas, c'est des mouvements qui sont...
C'est sûr que moi, d'abord, je pense que je sépare le citoyen du consommateur. Et je sais que des moments, je suis désolé, mais j'ai un porte-monnaie dans ma tête. Et donc voilà, on va fonctionner, on va rentrer dans le supermarché, on va fonctionner avec un porte-monnaie dans la tête. Et ça doit être... Et on doit protéger le travailleur. Le travailleur doit être protégé du consommateur par le citoyen. C'est le citoyen qui doit venir. Alors, par exemple, sur la question de l'agriculture, c'est comment on transforme l'agriculture? Est-ce que c'est juste en laissant s'étoffer la niche du bio? Ou bien c'est en posant un certain nombre de lois qui vont combattre le complexe agrochimique, et ainsi de suite?
C'est bien.
Et demain? Pour l'un comme pour l'autre, alors? À quoi ça va ressembler? Un projet de série télé pour vous, Cyril Dion? Une sorte de continuation du film?
On est en train de réfléchir à 5 fois 52 minutes, oui, pour la télé. Et puis moi, je suis en train d'écrire un film de fiction qui va parler de révolution.
Et François Ruffin, vous prenez un peu de repos, puis ensuite, vous allez au combat?
Et Nuit debout, ça avance, on en est où?
Moi, je suis pas... Je redis, hier, il y a eu, par exemple, une très belle manifestation. Et il y en a d'autres de programmées, et il y a une bataille qui est en cours, déjà, sur la loi travail. Parce que, vous savez, les gens, ils ont besoin de victoire. Si jamais il pouvait y avoir une petite victoire d'arraché sur ce terrain-là, ça viendrait dire aux gens, il y a des choses qui sont possibles. Bon, voilà.
Tomorrow, c'est ce que chante Frédérica Stahl, qui a composé la musique du film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. It's always so hard to see how things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel it, we're facing a wall. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. The whole world is on hold now. I feel it, we're facing a storm. See the final show now. Face the final blow now. Start looking around. Le débat continue, bien évidemment. Merci beaucoup à tous les deux, Cyril Dion et François Ruffin. Demain est en DVD aujourd'hui, mais encore en salle.
Oui.
Point d'interrogation.
Pour la 27e ou 28e semaine.
On peut aussi trouver des livres chez Actes Sud. Merci Patron est encore visible dans près de 68 salles en France. Merci beaucoup à vous, François Ruffin. Merci Loïc Blondiot. On se retrouve demain. Je ne sais